RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivie de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditrices, on va écouter maintenant les journaux aujourd'hui. L'Indonésie intensifie ses synergies avec l'Égypte pour lutter contre le terrorisme. En Égypte, les exportations des CPO de l'Indonésie sont les premières. Voici le bulletin complet. L'Indonésie renforcera la synergie avec l'Égypte après avoir été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Égypte, Helmi Fauzi, a déclaré qu'en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Indonésie pouvait être plus proactif dans les questions globales telles que la résolution des conflits, l'humanité et le terrorisme. Il souhaite que l'Indonésie puisse jouer plus de rôle pour empêcher le radicalisme et de l'extrémisme. Helmi Fauzi a déclaré samedi au Caire que dans le contexte des relations entre l'Indonésie et l'Égypte, les deux pays ont convenu que la lutte contre le radicalisme et le terrorisme était le problème qui devait être résolu ensemble.
Sudah barang tentu selama ini kita punya hubungan yang baik dengan Mesir.
Jusqu'à présent, nous avons une bonne relation avec l'Égypte et l'Égypte soutient également la candidature de l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'avenir, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de coopération entre l'Indonésie et l'Égypte pour mettre en synergie les efforts conjoints visant à anticiper la lutte contre les récits radicaux qui ont détourné la religion.
BNPT dengan pihak Mesir untuk lebih menjalin kerjasama dalam tukar-menukar informasi dan upaya-upaya lainnya dalam rangka counter-terrorisme.
Il existe actuellement un mémorandum d'accord entre le BNPT, ou Agence nationale de la lutte contre le terrorisme, et l'Égypte pour renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et d'autres efforts de lutte contre le terrorisme. Selon Helmi Fauzi, l'élection de l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU est une reconnaissance mondiale du rôle indonésien en tant que véritable partenaire pour la paix dans le maintien de la paix mondiale. L'Indonésie peut également jouer un rôle plus de promouvoir le pays dans le monde en prenant des initiatives de pays sur un conflit interminable, tel que le problème palestinien. L'Égypte est considérée comme un marché alternatif au milieu de la difficulté des CPO Indonésie à entrer sur le marché européen. Le ministre conseiller de la fonction économique de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Aris Triono, a déclaré au Caire samedi que le marché africain, en particulier l'Égypte, pouvait être une zone diversifiée des exportations de produits indonésiens. De plus, le gouvernement encourage les exportateurs à voir l'Afrique comme un marché potentiel. Selon lui, la campagne négative des CPO d'Indonésie en Europe est devenue l'une des plus grands obstacles aux exportateurs aujourd'hui. Il est temps pour les hommes d'affaires de regarder l'Égypte tant que marché prometteur. Ceci est prouvé par la valeur des exportations de l'Indonésie vers l'Égypte, les produits CPO dépassant la part de marché de 90%.
Bahkan di Mesir ini, kelapa sawit Indonesia itu
en Égypte, l'huile de palme de l'Indonésie est au premier rang avec une part de marché d'environ 80%. Donc en fait, le principal marché égyptien et l'Afrique en général est peut-être une zone diversifiée de produits indonésiens.
Produk Indonesia, istilahnya kalau di sana ditahan, kita bisa larikan di ke Afrika.
Selon l'Agence centrale des statistiques de l'Égypte, la valeur d'exportation des CPO de l'Indonésie en Égypte pour 2017 est classée au premier rang en atteignant plus de 688 millions de dollars américains pendant 7 ans pour la période janvier à février de cette année. Le nombre des exportations des CPO indonésiennes vers l'Égypte des CPO a atteint plus de 110 millions de dollars américains. L'ambassade de la République d'Indonésie à Kuala Lumpur a un programme d'éducation pour les enfants des travailleurs migrants indonésiens, TKI, qui travaillent dans les chambres, les jardins et les usines appelées Community Learning Center ou CLC. Ce programme, selon l'ambassade indonésienne pour la Malaisie, Rusti Kirana, donne l'occasion aux enfants d'âge scolaire de recevoir une éducation. Il a dit à l'Iftar avec l'association de Setia Kawan des journalistes malaisiens d'Indonésie, Iswami, dans la région d'Ampang, vendredi soir, qui revenait de Sarawak pour inaugurer plusieurs programmes de la CLC. À cet endroit, de nombreux enfants âgés de 6 à 14 ans qui ne savent ni lire ni écrire. Pour cela, il espère que le nouveau gouvernement de la Malaisie peut aider l'ambassade à ouvrir le programme de la CLC dans d'autres régions. À Sabah, Sarawak sont autorisés à faire CLC Community Learning Center. Le professeur est venu d'Indonésie, y compris son livre. C'est notre espoir pour le nouveau gouvernement malaisien et autorisé similaire. Parce que dans le pays allié et en termes humains, ils ont le droit d'accéder à l'éducation. Jusqu'à présent, selon Rushdie, il y a déjà plus de 200 CLC dans la région de Sabah. À Sarawak, l'ambassade d'Indonésie a ouvert 50 unités et continuera de croître. Les enfants des travailleurs qui ont rejoint la CLC seront donnés un programme professionnel ou une éducation qui mène à la maîtrise de certaines compétences, conformément à la demande des entrepreneurs, des propriétaires fonciers ou propriétaires d'usines, de sorte que plus tard, ils peuvent travailler ou être plus indépendants. 14 délégués de Suriname viennent de divers milieux d'affaires et professions à visiter la maison de Kriya Banjarsari solo jeudi. L'entourage était dirigé par un banquier et l'ancien ministre des Finances, Woni Bodu, et accompagné par l'ambassadeur d'Indonésie au Suriname, Domenico Supratikto. Auparavant, l'entourage a également visité le centre des meubles à Kalijambe Sragen. Au cours de la visite, une petite discussion a eu lieu entre une délégation commerciale du Suriname et des gens d'affaires du centre de Java. L'ambassade indonésienne au Suriname, Domenico Supratikto, a déclaré que dans les discussions, beaucoup de choses ont été collaborées, comme des secteurs agricoles, la plantation, de l'élevage des meubles, de la fabrication, de la gastronomie et de la banque. Supratikto a déclaré que la coopération se concentrait sur le secteur des meubles, car le potentiel et les opportunités sont très grands à travailler. Il a dit que le marché des meubles est de plus en plus répandu et à l'avenir, on peut collaborer sur le marché des meubles au marché mondial. Il a dit que la Suriname pourrait être l'entrée à l'exportation de divers produits pour les pays des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Il espère que les meubles d'Indonésie, en particulier solo, entreront au Suriname. Ces auditeurs, c'était notre journal aujourd'hui.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Tous les auditeurs, voici la mise au point de la semaine dont le titre d'aujourd'hui est « Le président a posé la première pierre du développement du campus de l'Université islamique internationale de l'Indonésie ». Le président Joko Widodo, accompagné par le vice-président Yusuf Kalla, ont commencé la construction du campus de l'Université islamique internationale d'Indonésie en posant la première pierre au bâtiment de l'émetteur de LPP RRI Cimanggis, la ville de Depok, province de Java de l'Ouest, mardi, le 5 juin. Dans son discours, le président Jokowi a déclaré que le plan de développement du campus de l'Université islamique internationale d'Indonésie est bien prévu dans 2 ans. Il souhaite que cette université devienne vraiment le centre d'études et de recherche de la civilisation islamique dans le pays d'Indonésie. C'est parce que l'Indonésie est aujourd'hui connue comme un grand pays qui a la plus grande population musulmane dans le monde. Selon le président, la construction du campus de l'Université islamique internationale d'Indonésie, qui coûte 3,5 billions de roupies, est incluse dans le projet stratégique national. Cette année commencera avec un budget de 700 milliards de roupies. Le développement devrait être achevé pendant environ 4 ans. Selon lui, l'année prochaine, le campus peut déjà être utilisé par un ou deux ou trois programmes d'études qui ont été préparés. Auparavant, le ministre des Affaires religieuses, Luqman Hakim Saifuddin, dans son rapport, a déclaré que l'Université islamique internationale d'Indonésie, qui n'ouvrira que l'éducation pour la maîtrise et le doctorat, aura 7 programmes d'études, à savoir les études islamiques, les sciences sociales, la science humaine, l'économie islamique, les sciences et la technologie, l'éducation, ainsi que l'architecture et l'art. Pour la première année, 3 cours à être ouverts sont les études islamiques, la science et la technologie, puis l'éducation. Selon le ministre des Affaires religieuses, bien que ne soient pas construits simultanément, les bâtiments du programme d'études s'étalent magnifiquement dans un environnement verdoyant, avec d'autres bâtiments tels que rectorat, mosquée, bibliothèque, musée d'art et de culture islamique, centre d'art, centre de congrès, centre sportif et centre commercial universitaire. La grandeur de ce campus reposera sur un terrain de 142,5 hectares, un maximum de 30% du terrain pour les bâtiments et 70% pour les espaces verts servant de protection de la faune et de la flore afin de maintenir les espaces verts du campus et de la ville de Depok, ainsi qu'un lieu de loisirs pour les résidents du campus et la communauté environnante. Les invités ont assisté à la cérémonie d'ouverture, entre autres, le secrétaire du cabinet, Pramono Anung, le ministre des Affaires religieuses, Luqman Hakim Saifuddin, le ministre de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, Muhammad Nasir, le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, le ministre des Travaux publics et du Logement du Peuple, Basuki Hadi Mulyono, le gouverneur de Java de l'Ouest, Ahmad Heriawan, le maire de Depok, Muhammad Idris, et les ambassadeurs des pays amis. Voilà la mise au point de la semaine.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Tous les auditeurs de RLI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 juin. Le 10 juin 1942, des soldats allemands, tous des habitants de Lidice, en représailles à l'assassinat du lieutenant nazi Reinhard Heydrich. Quand il savait que Reinhard Heydrich, l'un des nazis les plus cruels, avait été assassiné, Adolf Hitler s'est mis en colère et a immédiatement ordonné une enquête approfondie. Les renseignements liaient les tueurs à un village appelé Lidice, à 22 km au nord-ouest de Prague. Pour que des incidents similaires ne se reproduisent pas, Hitler a ordonné l'exécution de la population masculine, adulte, et a expulsé la population féminine au camp de concentration. Les enfants qui ont les cheveux blonds et les yeux bleus sont séparés de leur famille et adoptés par des familles allemandes. Les maisons ont été brûlées et les débris ont été aplatis. Le 10 juin, la signature de la traité d'amitié République d'Indonésie et l'Égypte au Caire. Le président indonésien Sukarno a envoyé une mission diplomatique en Égypte comme réponse à l'arrivée du consul général d'Égypte à Bombay, Abdul Munim, qui a visité Yogyakarta il y a quelques mois auparavant, dirigé par le vice-ministre des Affaires étrangères, Agus Salim, a pour mission de mobiliser un soutien pour l'indépendance de l'Indonésie dans le monde et a signé un traité d'amitié entre l'Égypte et l'Indonésie. Le traité d'amitié, la politique et le commerce entre les deux pays a été signé au ministère des Affaires étrangères de l'Égypte du côté égyptien et a été représenté par le premier ministre Nokrashi Pasha, qui est également ministre des Affaires étrangères de l'Égypte et à la partie indonésienne, a été représenté par Agus Salim. Avec la signature du traité d'amitié, renforce plus la souveraineté de l'Indonésie en tant que pays indépendant. L'Égypte est le seul pays qui reconnaît la souveraineté de l'Indonésie de facto et de jure à cette époque. Cet accord est la première victoire de la diplomatie indonésienne à l'étranger, ainsi que l'échec des Pays-Bas pour empêcher la reconnaissance de la souveraineté indonésienne à l'étranger. Le 10 juin 2009, l'inauguration du pont Suramadu reliant l'île de Madura et l'île de Java. Le pont national de Suramadu est un pont qui traverse le détroit de Madura, qui relie l'île de Java et l'île de Madura. Avec une longueur de 5 438 mètres, c'est le plus long pont en Indonésie aujourd'hui. Il se compose de trois parties: le pont aérien, le pont de liaison et le pont principal. Ce pont a été officiellement inauguré par la présidente Megawati Sukarnoputri le 20 août 2003 et inauguré de l'ouverture par le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 juin 2009. La construction du pont vise à accélérer le développement de l'île de Madura qui couvre les secteurs de l'infrastructure et de l'économie de Madura, qui est relativement à la traîne par rapport à d'autres régions de Java de l'Ouest. Parce qu'elle relie les deux îles, la technologie de développement du pont Suramadu est conçue pour permettre aux navires de passer sous le pont. Chers auditeurs, voilà l'histoire d'aujourd'hui de RRI du Service mondial depuis Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tous les auditeurs, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique de mon Indonésie. Le titre d'aujourd'hui est DKI libère la taxe sur les billets pour les Jeux asiatiques. Le gouvernement provincial de DKI Jakarta a décidé de libérer la taxe sur les billets pour les Jeux asiatiques de 2018. Cette politique rendra le prix de billets plus abordable. Cela a été dit par le député de pour l'administration. Auparavant, les provinces de Sumatra du Sud et Java de l'Ouest avaient déjà libéré la taxe sur les billets pour les Jeux asiatiques de 2018. La décision du gouvernement provincial de DKI Jakarta de libérer la taxe sur les billets pour tous les sports aux Jeux asiatiques tenus à Jakarta a été transmise par le vice-gouverneur de DKI Jakarta, Sandiaga Uno, à Jakarta, mercredi soir le 6 juin. L'exemption de taxes, non seulement pour tous les sports des Jeux asiatiques à Jakarta, mais aussi pour les Jeux para-asiatiques qui se dérouleront dans la capitale. Les Jeux asiatiques auront lieu du 18 août au 2 septembre 2018 et les Jeux para-asiatiques se dérouleront du 6 octobre au 13 octobre 2018. Selon Francis Wanandi, non seulement rend les prix des billets plus abordables, l'impact de l'exonération fiscale permettra au comité de fournir des billets gratuits pour un certain nombre de sports. Les sports qui peuvent être regardés gratuitement, entre autres, courir marathon, vélo de route, pentathlon et plusieurs autres branches. Le comité n'a pas été en mesure de présenter les détails exacts des ventes des billets du match. Le plan, les billets pour la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques au stade Gelora Bung Karno de Senayan, être réservés à partir de la mi-juin. Non seulement en ligne, il y aura également des ventes directes au lieu du match. Bien sûr, il y aura le quota de billets pour les spectateurs qui viennent directement à l'emplacement du jeu. Cependant, Francis a dit il devrait garder les facteurs de sécurité d'abord. L'exemption de taxes sur les billets pour les Jeux asiatiques fait partie de la subvention pour alléger les fardeaux de la société. La politique permet au public de regarder le match plus facilement parce que les billets deviennent moins chers. C'était mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie.
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous. On se retrouve dans le magazine culturel. En ce mois de Ramadan, nous allons vous inviter à Riau pour connaître la tradition de réveiller la communauté à sahur. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. Vous pouvez nous écouter par l'onde courte de 902.5 kHz et par www.voinews.id. Chers auditeurs, aujourd'hui, partout dans le monde, les musulmans sont en train de mener les jeûnes pendant le Ramadan. Les musulmans qui jeûnent, ils ne devraient pas manger ni boire du lever au coucher du soleil, c'est environ 12 heures. Pour les jeunes, les musulmans doivent faire le sahur, ou le repas de l'aube. Habituellement, cette activité se fait à partir de 2 heures du matin. Il y a plusieurs façons de réveiller la communauté au sahur. La tradition de réveiller les gens à manger le sahur, ou le repas de l'aube, pendant le Ramadan, est une pratique courante dans de nombreuses régions d'Indonésie. L'un d'entre eux est à Riau, précisément dans l'île de Palas, le sous-district de Tambilahan Hulu et le district d'Indragiri Hilir, Riau. La tradition qui se maintient à Riau est très intéressante parce qu'il y a une tradition de réveiller la communauté à sahur qui est connue sous le nom de Arak-arakan pengantin sahur ou le défilé des mariés au sahur. Chers auditeurs, les mariés au sahur est un événement pour défiler la mariée et le marié. C'est comme une vraie mariée, mais dans défilé, les mariés sont tous des hommes. L'un d'eux sera en maquillage comme une mariée. Toutes ces mariées vont porter des vêtements et se maquiller comme une vraie mariée. Il y a trois paires de mariées dans ce défilé. Après être habillés et porter une robe de mariée, les mariés seront défilés sur une charrette pour entourer le village. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'ils défilent les mariés de sahur en utilisant de l'haut-parleur, de la musique et de l'éclairage. Ils chantent également des chansons islamiques. Chers auditeurs, ce défilé réveillera la communauté d'1h30 à 3h. Les gens qui se sont réveillés à cause de la foule de défilé participeront aussi à animer le défilé. Ce défilé a commencé il y a des dizaines d'années. Cet événement a eu lieu presque tous les soirs pendant le Ramadan. Mais pour ne pas perturber les activités quotidiennes, alors dernièrement, le défilé se fait seulement le samedi et le dimanche soir. Chers auditeurs, le défilé organisé tous les week-ends est une activité positive pour les jeunes de la région de Riau pendant le Ramadan. Non seulement cela, à la mi-Ramadan, habituellement les mariés du défilé seront également contestés dont les évaluations sont basées sur le maquillage, les costumes et la cohésion du couple. Chers auditeurs, nous terminons l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui, dont le sujet est Arak-arakan, pengantin sahur, ou en français, défilé des mariés au sahur. On se rencontrera demain, merci beaucoup, et voilà la voix de l'Indonésie depuis Jakarta.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Les auditeurs fidèles de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique de l'Indonésie en couleur. Cette édition va parler de Ngabuburit, en connaissant la culture. L'heure de briser les jeûnes est le moment le plus attendu par les jeûneurs au mois de Ramadan. Pour les personnes qui sont occupées à travailler ou à faire des activités, l'heure d'attente pendant les jeûnes n'est pas aussi ressentie. Mais certaines personnes attendent délibérément l'heure d'arrivée du coucher du soleil pour briser les jeûnes. Le terme ngabuburit est largement utilisé par les Indonésiens qui signifie le temps d'attente pour briser les jeûnes, précisément après la prière Asar. Le terme Ngabuburit vient de la langue sundanaise Java de l'Ouest, dérivé du mot burit, qui signifie crépuscule, soir ou avant le coucher du soleil. L'activité entreprise par les étudiants de IPB avec des étudiants étrangers. Cette activité est intitulée Ngabuburit est l'activité entreprise par les étudiants de IPB avec des étudiants étrangers. Cette activité est intitulée Ngabuburit bareng bule 2018 ou en français Ngabuburit avec des étrangers de 2018. Cet événement invite les orphelins et les enfants pauvres du village de Cikarang, Dermaga Bogor, Java de l'Ouest, au terrain du rectorat de IPB, il y a quelque temps. L'événement organisé par le récipiendaire de l'Institut de la gestion de fonds de l'éducation de l'IPB et de la Fondation de Ar-Rahman a également invité deux étudiants étrangers de l'IPB venant de Philippines, du Japon, du Myanmar, du Vietnam, de Malaisie et d'Australie. Chers auditeurs, Ngabuburit bareng bule 2018 ou Ngabuburit avec des étrangers de 2018 et fait partie du programme anglais d'éducation non formelle qui est régulièrement mis en œuvre par le comité. Le président de la division du service communautaire de LPDP de l'IPB, Bukhari, a déclaré que coïncidant avec le mois de Ramadan, il invite non seulement les enfants, mais aussi il invite les étudiants étrangers pour briser ensemble les jeûnes. Selon lui, cette activité vise à former le courage des élèves à oser parler aux étrangers. En outre, cette activité devrait permettre aux élèves de mieux comprendre la variété de la culture et de l'art d'autres pays. Pour les étudiants étrangers, cette activité leur permet également de mieux connaître la culture indonésienne parle des jeux traditionnels joués avec les enfants. Ils ont participé aux jeux de relais de marbre et de balles de ping-pong avec les enfants. De plus, Kyokata Ikeda, étudiante japonaise, a également présenté l'art et la culture de son pays. Il a même jeûné depuis le début du Ramadan. Elle a dit qu'elle a jeûné juste parce qu'elle voulait essayer. Selon Kyokata, ses opinions sur l'islam et les musulmans ont changé après avoir étudié en Indonésie. Cela est la même opinion avec Orlando et Alana, les étudiants d'Australie. Bien qu'il y ait beaucoup de musulmans en Australie, ils ne le connaissent pas vraiment. Les deux étudiants australiens connaissent plus les musulmans, surtout les jeunes, depuis qu'ils étudient en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Salut les amis de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Toujours avec moi, Tiwi, dans le magazine musical, une rubrique qui va vous présenter les chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons écouter la chanson de pop islamique. Pour commencer cette édition, écoutons la chanson dont le titre est « Terserah yang di atas » ou en français « C'est à Dieu ». Restez avec nous à www.voinews.id.
Semua salahku, ku pasrahkan diri.
Adalah chanson sans titre terserah yang di atas, chantée par Astrid Kuya. Les compositeurs de cette chanson sont Ishal Faza et Uya Kuya. La chanson a été lancée le 25 mai 2018. Cette chanson raconte de quelqu'un qui est bercé par le luxe du monde. Tout ce qu'il veut, il peut l'obtenir de façon positive ou négative. Mais il a finalement réalisé que tout ce qui est obtenu dans ce monde n'est que temporaire. Chers amis, je vous présente la chanson intitulée « Ramadan sudah tiba ». Bonne écoute!
Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba. Lakukan dengan ikhlas seperti surah al-ikhlas, ya yeah. Puasa 30 hari, ya yeah. Jangan batal kamu laki-laki, ya yeah. Tarawihku di masjid, ya yeah. Softku paling depan, ya yeah. Tadarus hatam Al-Quran, ya yeah. Aku bilang alhamdulillah, Malam Lailatul Qadar aku sudah rindu. Macam azan maghrib yang selalu aku tunggu, Sempatkan bangun pagi aku sholat duha subuhku. Tak tinggal sholat jemaah. Wake up, wake up, wake up now. Ku kejar cintamu. Wake up, wake up, wake up now. Let's get it on. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Go. Bulan baik, bulan berkah, yeah. Bulan saling memaafkan, eh. Biar semua masuk surga. Jangan lupa sedekah, eh. Yatim kamu tolong. Kalau kamu real yatim, puasa jangan bolong. Buka puasa pakai kurma sunnah Nabi. Sahur yang banyak, makan sampai cabi, eh. I work hard and Ramadan cause I am the man. I go flex for Lebaran cause I am the imam, eh. Atta Halilintar, yeah. Yeah, you know me, man. Say it. Wake up, wake up, wake up now. Ku kejar cintamu. Wake up, wake up, wake up now. Let's get it on. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan. Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson d'Atta Halilintar, un chanteur, youtubeur et un jeune entrepreneur, sans titre Ramadan sudah tiba ou Ramadan est arrivé. La chanson a été publiée le 18 mai 2018. Cette chanson portant le genre R&B est assez unique parce qu'elle est un peu différente d'autres chansons religieuses dans lesquelles Atta a également inséré des éléments du rap. La chanson suivante à écouter s'intitule « Peluk aku Tuhan » ou en français « Embrasse-moi Dieu.
Ini telah ku sadari telah menetes air mata seakan engkau mengingatkanku pada dosa yang tak terhingga. Berdiri jauh atas tobatku, ku di antara surga neraka. Ku hanya manusia hina, takkan luput dari dosa. Tapi di sujud ini tak ku sadari telah menetes air mata seakan engkau mengingatkanku pada dosa yang tak terhingga. Berdiri dahulu atas taubatku, ku di antara surga neraka. Takkan luput dari dosa, tapi mohon ampun.
Chers amis, la chanson que vous venez d'écouter est « Peluk Aku Tuhan » par Shelao. Cette chanson a été créée par Pika Iskander à partir de son expérience personnelle. Cette chanson parle d'un homme qui demande le pardon de Dieu et elle a été sortie le 12 mai 2018. Voilà l'édition du magazine musical d'aujourd'hui. Pour la terminer, écoutons la chanson chantée par Deli Sulaiman, dont le titre est Ya Rasulallah. Cette chanson raconte du long voyage de dakwah du prophète Muhammad qui passait de nombreux obstacles. Elle illustre également son amour au prophète en tant que modèle de tous les musulmans. Chers amis, voici la chanson intitulée Ya Rasulallah. Bonne écoute et au revoir.
Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika,
saat jauh darimu. Begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu. Teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Coba merayu, mengajak semua manusia. Bicara dari hati ke hati, mari kita salat. Malam, malamku menangis lagi. Sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasul.
Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.